RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 16h05, l'Intégral Tour continue. On revit la deuxième semaine de course pendant que les coureurs se reposent avant la dernière ligne droite. Souviens-toi, jeudi dernier, le 16 juillet, Lanzmann, Plateau de Bay, la 12e étape, victoire de Purito Rodriguez. Ça veut dire que Chris Froome ne gagne pas à tous les coups. Est-ce que ça laisse de l'espoir à notre Dream Team RMC Sport?
Jean-Christophe Perrault vit jour après jour un véritable calvaire.
Le Toulousain de l'équipe AG2R La Mondiale, deuxième du dernier Tour de France, qui est une nouvelle fois en train de craquer dans l'ascension du Port de l'Hers à la dérive. Le coureur de la formation AG2R qui vient de décrocher à plus de 55 km de l'arrivée.
Fred, avec des Français en difficulté.
Oui, Tony Galopin, meilleur Français au classement général, 7e ce matin à 4,44. Il vient de décrocher, ça fait maintenant un petit kilomètre. Et à l'instant, Warren Barguil, 9e du général, 2e Français, et lui aussi en train de prendre l'eau.
Alberto Contador est en train d'attaquer.
Accélération de l'Espagnol de la Team Copsaxo à 8 km de l'arrivée, un peu plus. Il n'a plus d'équipier puisque Rafał Majka vient de décrocher. Christopher Froome a toujours à ses côtés Richie Porte et Geraint Thomas. On a dans ce groupe maillot jaune Van Garderen évidemment, ainsi que Bauke Mollema et Gesink, les Hollandais. Quintana et Valverde évidemment présents. Vincenzo Nibali également. Et puis côté français, Pierre Roland et Thibaut Pinot. Alberto Contador qui a accéléré et qui n'est pas pris en chasse pour l'instant. Christopher Froome laisse Richie Porte, l'Australien, et Geraint Thomas, le Gallois, lui emmener le rythme et maintenir Alberto Contador à une petite cinquantaine de mètres d'avance seulement.
Le pétard me semble un peu mouillé quand même.
Ouais. Nibali attaque. On dirait qu'ils s'entendent là. Et bien bientôt, ça va être Quintana.
Attaque à répétition. Voilà, cette fois-ci, c'est le vainqueur sortant du Tour de France qui semble un tout petit peu plus tranchant sur ce coup-là.
Oui, mais c'est pareil.
C'est exactement pareil.
Accélération de Nairo Quintana en danseuse sur la gauche du groupe. Il a débordé Richie Porte qui, du coup, se gare sur la droite de la route. Il ne reste plus qu'un équipier à Christopher Froome. C'est Geraint Thomas, le maillot blanc de meilleur jeune. Nairo Quintana, deuxième du Tour derrière ce même Froome il y a deux ans. Porteur du maillot blanc de meilleur jeune, troisième du général à 3 minutes 09 de Christopher Froome, vient de mettre sa première banderille. Il est rattrapé à l'instant par Geraint Thomas.
Petite pique de Quintana qui a servi au moins à une chose.
Il faut remettre une là.
À faire péter Porte, mais bon, il en reste un autre.
Il faut remettre une là.
Ah oui, t'es gentil toi.
Mais oui, mais si, mais c'est le meilleur grimpeur du monde. Il doit faire marcher par fractionné.
Je pense
là.
Que le meilleur grimpeur du monde, c'est Chris Froome pour l'instant.
Oui, mais c'est Froome, c'est pas Quintana. Le meilleur grimpeur, c'est Porte. Et Geraint Thomas.
Attention, Thibaut Pinot est en train de craquer. Il n'aime pas ses à-coups aujourd'hui. Thibaut Pinot qui a retrouvé un temps qui lui convient beaucoup mieux. Lui qui a avoué avoir attrapé un coup de chaud dans les deux premières étapes pyrénéennes. Aujourd'hui, sous le déluge ariégeois, il est en train de se faire la peau, comme disent les coureurs. Pour ne pas être plus vulgaire que ça, il se fait la peau, Thibaut Pinot, à 6 km de l'arrivée, tandis que Joaquin Rodriguez caracole toujours en tête à 3 km de l'arrivée ici au plateau de Bay.
La moteur M, c'est Georges Quirino.
Et où on voit désormais le groupe maillot jaune avec Geraint Thomas qui emmène dans sa roue le maillot jaune de Christopher Froome. Le groupe maillot jaune avec TJ Van Garderen également positionné en cinquième position. Ils prennent un lacet à droite là pour avoir des pourcentages un petit peu plus importants. Allez, on va avancer Marco parce que ça arrive vite derrière nous pour... Quintana, Valverde qui sont dans ce groupe également. Pierre Roland est là également dans ce groupe maillot jaune.
Attaque de Froome.
Accélération de Chris Froome. Accélération de Christopher Froome sur la droite de la route. Il a regardé son pédalier, son attaque toujours particulière. Il y a Nairo Quintana, le maillot blanc qui est collé à sa roue, à Christopher Froome. Derrière, ça ne réagit pas. Ils sont les deux Contador. Contador arrive à recoller en danseuse. L'Espagnol, voilà Froome, Quintana, Contador, Van Garderen est en train de revenir. Car le maillot jaune c'est Rassi désormais sur sa selle, Christophe.
Voilà, Quintana et Chris Froome qui coupent son attaque, qui a voulu tester ses adversaires. Il se retourne et regarde, Quintana ne plante pas de contre-attaque.
C'est dommage.
C'est dommage, il a peut-être pas les moyens aussi.
Alors, il faut avoir les jambes pour pouvoir
avoir les jambes. Lucho, il a pas de mobilette quand même.
Je sais rien.
Quintana qui accélère sur la droite de la route, sous la banderole des trois derniers kilomètres. C'est Chris Froome qui est obligé de réagir. Le maillot jaune qui tente de revenir, Contador dans la roue de Christopher Froome. Également Nairo Quintana qui a déclenché les hostilités là sous la banderole. On est toujours sous la pluie dans une zone un petit peu plus plate. On va le revoir apparaître sous nos yeux, le Colombien qui a retrouvé Chris Froome dans sa roue qui a retrouvé Contador et TJ Vanguard de Rennes. Quintana qui a coupé son effort et qui regarde désormais les dégâts qui ont été faits.
Alors que pour Hito Rodriguez, Fred va en terminer dans quelques instants. Il salue la foule, il est trempé sous l'averse ici au plateau de Bay et il va s'imposer dans un instant.
Oui, l'Espagnol de 36 ans qui envoie des baisers à la foule détrempée sur ce plateau de Bay. Il peut lever les bras en V et hurler sa joie. Deuxième victoire en deux semaines.
RMC Intégral Tour.
Alors, le scénario du jour, est-ce que le scénario d'aujourd'hui vous laisse des espoirs pour les Alpes qu'on abordera la semaine prochaine? L'écart, en tous les cas, aujourd'hui, semblait moins important qu'il ne l'était avant-hier entre Froome et ses adversaires. Alors, à moins qu'il bluffe, évidemment, c'est toujours possible, puisqu'il a le maillot, il est tranquille, 2,52 d'avance sur Vanguard de Rennes et plus de 3 minutes sur Quintana. Peut-être aujourd'hui n'avait-il pas envie d'assommer à nouveau le tour et de réveiller à nouveau la vindicte populaire qui s'est abattue sur lui et sur la formation Sky. Alors, scénario qui incite à
l'optimisme. Pourquoi pas? Aujourd'hui, en fait, on n'a pas vu grand chose puisqu'il a jamais, il s'est jamais retrouvé seul à être obligé de contrer les attaques puisque il avait Richie Porte qui faisait monter très vite. Donc là, ça condamnait quand même une grande partie des possibilités d'offensive. Le premier, il y a eu les Tinkoff qui ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de durcir la course. Mais ça n'a servi strictement à rien. Il y a eu la première attaque de Contador et très vite on s'est rendu compte que Contador c'était un pétard mouillé. Alors après Valverde a commencé. Moi je pense qu'on s'est plus trouvé dans une situation où on a mis des banderilles pour voir ce que ça donnait et je crois que très vite ils se sont rendus compte que c'était pas sur cette ascension là que les choses se feraient. Alors, ils ont continué, un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'on était plus dans un spectacle pour se dire que. Et puis, on savait aussi que certains grands coureurs, certains grands leaders sur ce tour, commencent à énerver leur boss milliardaire.
Ouais, c'est le cas de Contador Nibali qui énerve Vinokourov.
Voilà. Donc, par rapport aux remontées de bretelles, puisque c'est les informations que notre ami Georges nous a données pendant l'étape, eh bien, ils se devaient de montrer, de faire allégeance à leur chef. Bon. Mais j'ai jamais senti à un moment donné une véritable attaque pour faire sauter, mais de toute façon, elle aurait été vaine.
Ouais. Lucho, tu as quand même été entendu, hein, parce que depuis hier, tu t'énerves parce qu'il n'y a pas assez d'attaques. Là, ils ont tenté leur chance. Alors, tu nous disais, mais pourquoi Quintana, il en remet pas une? Mais Quintana, il faut être quand même en super forme pour attaquer à plusieurs reprises. Donc, tu es déçu par ce qui s'est passé aujourd'hui, ou au contraire, tu te dis qu'il y a encore de l'espoir pour les Alpes?
L'espoir fait vivre, hein, comme on dit, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir quelques petites attaques un peu plus tôt dans l'étape d'aujourd'hui, notamment dans l'avant-dernier col, même si c'est vrai qu'entre le sommet de l'avant-dernier col et le pied du plateau de Bay, il y a quand même un petit peu de distance. Il aurait fallu peut-être essayer de virer entre guillemets les équipiers forts de Froome.
Mais ils l'ont fait.
Comment tu peux faire, Lucho?
Il a fallu du temps quand même pour les faire.
Comment tu veux faire? Il faut attaquer.
Le plus fort après Froome, c'est Geraint Thomas. C'est le plus fort après Froome et Geraint Thomas.
Oui, mais à un moment donné,
c'est comment?
Ouais, mais enfin, les deux sont plus forts que les leaders qui sont opposés à la Sky.
Ouais, mais enfin, Thomas, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards. À un moment donné, il va sauter, quoi.
Ah non, c'est à quoi?
Il a tout roulé là.
Oui, il a tout roulé. Mais à un moment donné,
tu fais rouler Valverde, il saute. Hein,
oui, mais tu leur mets une petite perte fractionnée dans l'école. Il roule au rythme. C'est sûr qu'il roule fort. Il roule au rythme. Mais dès que ça accélère et dès que ça fait quelques petits fractionnés,
il commence à péter un peu. Déjà super vite. Il monte.
Eh ben, t'en remets une, Thierry.
Mais tu peux pas. Mais t'as vu comment il s'essouffle?
Il veut toujours en remettre une.
Moi, je veux bien. Oh. Ils ont pas le vélo électrique.
Ils sont pas indestructibles quand même.
Lucho, ils en ont mis des sacs. Mais vu la vitesse où ça montait,
ils étaient pas assez lourds les sacs.
Ah ouais, ils t'attendent. Hein. Reprends plus ça, hein.
Attends, je reviens 20 ans en arrière.
Mais quand je vois la vitesse où ça monte, mon petit bonhomme, j'ai pas envie d'être dans le groupe. D'ailleurs, je pourrais pas y être.
Bon, Thierry, optimiste pour la suite. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils aient tous tenté les uns après les autres. c'est tous contre Froome aujourd'hui, tous contre Lasca et plus exactement.
Ça ils sont quelque chose d'important.
Oui, moi je trouve ça sympa parce qu'on espérait qu'il y ait une certaine coalition contre Froome parce que Froome et sa garde rapprochée avec Thomas et Richie Porte, franchement, je vois pas comment on peut les mettre en difficulté. On a comme dit Cyril, les hommes de Contador ont mis en route au pied pour essayer de durcir la course et en fait dès qu'ils ont baissé un peu de rythme, c'est Richie Porte qui s'est contenté de faire un petit
Il s'est mis en danger Froome à un moment donné.
Il a fait pour leur dire écoutez les gars, il a fait montrer qu'il est encore là, mais il a fait son équipier.
Qui est revenu après.
Mais bon, Quintana aurait été vraiment
très fort. Oui, mais peut-être ses équipiers ont dit, bon, voilà, le patron prend les choses en main, nous, on va rester tranquille maintenant.
Nous, on se relève.
Ça peut aussi être... Tiens, on va écouter Nicolas Portal à ce sujet, le directeur sportif de la formation Sky. Alors, est-ce qu'il s'attend à un scénario identique tous les jours? Est-ce qu'il s'attend à être harcelé par les adversaires de Chris Froome? Nicolas Portal.
Non, mais je pense qu'en fait, ça tous les jours, ça est toujours comme ça. Faut pas s'attendre à avoir des amis, ou en tout cas, on n'a pas non plus d'ennemis. C'est juste la course. On nous fait pas de cadeaux et c'est normal. Donc, ça va être ça tout le tour. Et ben voilà, il faut maintenant à nous de gérer notre gain de temps le mieux possible. Il faut pas s'exciter sur tout ce qui bouge au prix de, si on se met trop dans le rouge, on peut aussi tout perdre, quoi.
Voilà, il faut pas attaquer sur tout ce qui bouge, Cyril. Hein, c'est la voie de la raison.
C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Oui, non.
Plus personne n'est dangereux.
Mais alors, alliance entre les adversaires de Froome. Est-ce qu'il peut y avoir une alliance
Mais ça tient rarement longtemps.
Ouais, c'est ça.
Parce que lorsque, imaginons à un moment que Van Garderen attaque.
Non.
Il peut pas attaquer.
On va prendre
Cyril, c'est
allez,
pas bon,
Contador qui se trouve derrière, qui sort et qui s'en va. Bon, il s'en va et la Sky y va pas. Quintana et Valverde vont attendre qu'il ait trop d'avance pour bouger. À un moment, Froome, il peut très bien dire, attends, moi, Contador, il est à 4 minutes. Allez, je lui donne une minute de liberté. Donc, je le laisse prendre une minute. Eh ben, je suis pas sûr que l'alliance ça va durer longtemps.
Ouais,
hein.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a un moment,
tout le monde a des intérêts différents.
Il y a Quintana et Valverde qui vont se mettre à rouler, et Van Garderen aussi, quoi. Mm-hmm. Et le maillot jaune, ce genre de situation, je l'ai connu 50 fois. Je suis dans les Tours d'Espagne, les Tours d'Italie ou les Tours de France. Et à un moment, c'est le quatrième qui va chercher le cinquième, c'est le troisième qui va chercher le quatrième, et ainsi de suite. Et pratiquement, quand t'es leader, ben tu laisses les petits se battre entre eux, et toi tu restes le taulier.
Exactement.
Et tu comptes les points.
ça suscite beaucoup d'interrogations, évidemment, le fait qu'il y ait trois coureurs de la même équipe qui soient au-dessus du lot et qui arrivent notamment à reprendre de purs grimpeurs tels que Quintana, Contador, Nibali.
Richie Porte, c'est un grimpeur, hein. Faut pas se.
Je pensais plutôt à Geraint Thomas, qui est un garçon issu. Alors voilà, je veux juste avoir les explications. On en a parlé tout à l'heure en antenne avec Cyril. Geraint Thomas, c'est un garçon qui a commencé par la piste, qui est double champion olympique de poursuite par équipe et qui aujourd'hui grimpe aussi bien que Quintana et les autres. Est-ce que c'est surprenant ça, Cyril? Est-ce que toi tu es surpris par ce changement de physionomie et changement de carrière en quelque sorte pour Geraint Thomas? Ou alors est-ce que c'est dans le droit fil d'une carrière? On peut commencer sur la piste en poursuite et ensuite finir en haut de la montagne.
Lorsqu'on fait de la piste, alors il y a deux choses sur la piste. Vous avez les sprinters. Alors ça, c'est un autre sport.
Voilà, évidemment, c'est le Grégory Boget.
Non, la vitesse par équipe, le sprint.
Ils passent pas un pont de chemin de fer, ceux-là. Hein.
Non, mais ils essayent même pas, d'ailleurs. Mais c'est pas le même sport. Alors déjà, vous passez 50% de votre temps dans la salle de muscu. Bon, ceux qui font les omniums, c'est-à-dire les américaines, les individuels,
tels que Brian Coquard, hein, qui a été comme vice-champion olympique, je crois.
Oui, Brian Coquard, c'est aussi un pistard. Mais vous savez que ce que j'allais dire, c'est que pour faire de la poursuite, il faut d'abord faire de la route. Quelqu'un qui devient champion olympique de poursuite, c'est d'abord un routier, parce qu'il faut d'abord apprendre à courir sur route, tout en apprenant à courir sur piste. Mais l'entraînement, il se fait sur la route, la technique se fait sur la piste, mais beaucoup plus tard.
Mais ça se fait sur la piste d'un vélodrome, ça grimpe pas un vélodrome. Enfin,
les courses sur route, vous les faites pas sur un vélodrome. vous courez sur route et puis à certains moments vous allez, mais attendez, regardez ce que fait Vikings. Il fait les courses sur route et puis à un moment il se dit hop, un mois et demi avant le les Jeux Olympiques ou le championnat du monde, je fais du spécifique.
C'est vrai que quand tu regardes le palmarès de Geraint Thomas, il a pas de palmarès.
Et sa spécialité,
c'est rouleur.
Ouais.
Bah oui.
Voilà.
Rouleur qui a quand même terminé, je crois, deuxième. Attends, du Tour de Suisse récemment. Hein, je sais plus quand, mais là.
Non, il est pro depuis 2005 quand même.
Deuxième du Tour de Suisse qui s'est terminé il y a un mois.
Alors le premier c'est Chris Froome, mais l'éternel second c'est Peter Sagan, pas au classement général, mais le Slovaque passe toutes ses étapes à finir deuxième. On va essayer de comprendre pourquoi, à tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
16h22, l'Intégral Tour continue à dérouler la deuxième semaine de course sur RMC. On est vendredi 17 juillet, il fait chaud, les coureurs roulent entre Muret et Rodez. C'est la 13e étape et c'est Van Avermaet qui s'impose. Devinez qui finit deuxième. Évidemment, c'est Peter Sagan, comme à chaque fois. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il finit toujours deuxième? Attention, la Dream Team réfléchit.
Oh là là, avec une chute dans le peloton. On va essayer de voir, c'est Jean-Christophe Perrault, me semble-t-il. Jean-Christophe Perrault, alors que des bordures sont en train de se former à 65 km de l'arrivée. Toujours 6 hommes en tête qui voient revenir à vitesse grand V un peloton lancé en éventail, plusieurs éventails. Le peloton scindé en deux parties. Et bien voilà, quand on s'affole et qu'on essaye de rester dans l'abri alors que des bordures se forment, eh bien on risque de toucher des roues. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Christophe Perrault qui vit décidément un Tour de France 2015 galère, lui qui avait terminé deuxième derrière Nibali l'an passé sur le podium. 3 minutes 30 d'avance pour les 6 hommes de tête où l'on trouve 3 Français, on le rappelle, Cyril Gauthier, Alexandre Géniez et Pierre-Luc Périchon.
Franchement Cyril, quand on est dans la situation de Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour l'an dernier, mais largué depuis le début dans les étapes des Pyrénées, et qu'on chute comme ça, on doit vraiment se demander ce qu'on fait là et on doit vraiment se demander pourquoi je ne rentrerai pas à la maison là. Hein.
Voilà, c'est une image dramatique. En plus, il doit toucher une roue puisqu'il tombe tout seul. Heureusement, il n'emmène personne. Ce qui veut dire qu'il est pas dedans, il est pas dans la course. Vous savez, quand on est bien, c'est quand même assez rare que l'on va par terre. Mais malheureusement, c'est pas son tour. Je sais pas si je pense qu'il va repartir. Oh là, il est bien rentré.
Le cuissard est ouvert, gauche, hein. Pour vous décrire ça, le cuissard est ouvert sur le côté gauche, on lui voit la hanche, le coude gauche est salement amoché, il est en train de se faire soigner par la doctoresse du Tour de France, Jean-Christophe Perrault, qui ce matin pointait dans les etc. Du classement général, vraiment très loin, lui qui a fait quasiment groupe étau hier. Vous parliez de ce Tour de France galère, de la situation dans laquelle il est psychiquement et physiquement maintenant, puisque bien amoché, il m'est revenu.
Il est complètement ouvert sur le côté.
Il m'est revenu récemment à l'esprit une discussion que j'avais eue avec lui alors qu'il recevait le prix du meilleur coureur français décerné par Vélo Magazine, nos confrères de Vélo Magazine, le Vélo d'or français. Jean-Christophe Perrault qui me disait, à l'époque c'était off, il ne voulait pas que je l'écrive dans l'article que j'étais censé produire dans la foulée. Jean-Christophe Perrault qui me déclarait c'était fin octobre, il me disait, tu sais, après ce que j'ai fait sur le Tour l'an passé, deuxième, j'ai pas envie d'y aller sur le Tour en 2015, je ferai jamais aussi bien et tous les regards seront tournés vers moi. Ce que j'aimerais faire, vu le Giro qui se présente en 2015, c'est aller au Giro, mais va expliquer ça à l'avenue, va expliquer ça aux sponsors, je serai sur le Tour, mais je préférerais être sur le Giro.
Ouais, ouais. Jean-Christophe Perrault, Georges Quirino a quelque chose à nous dire, Georges, sur l'état d'esprit de Jean-Christophe ces derniers jours.
Oui, où il nous a beaucoup parlé de la chaleur, Jean-Christophe Perrault. Ça fait deux jours que pour expliquer ses défaillances, il nous parlait de cette chaleur pesante qu'il a du mal à affronter. Et quand on voit le thermomètre là, tout à l'heure, Christophe, on a touché les 40 degrés, hein, les 40 degrés sur la route du Tour. Il y a le goudron qui fondait même un peu là, alors qu'on traverse Valence d'Albigeois. Mais Jean-Christophe Perrault qui disait encore hier soir sur son compte Twitter, demain, il faudrait pas qu'il fasse encore chaud comme ça, il craignait beaucoup cette journée. peut-être que la tête ne suit pas et avec la chaleur ça n'aide pas le deuxième du dernier tour.
Cyril, est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer à la maison pour Jean-Christophe? Il n'a plus rien à espérer sur ce Tour de France, mais évidemment vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de son équipe, c'est difficile, on ne quitte pas le Tour comme ça, surtout quand on a été sur le podium l'année précédente.
Oh, on n'est plus dans cette démarche en ce moment. Plus la chute là qu'il vient de subir, il n'est plus dans le coup au classement général. Est-ce que vous croyez que pour les sponsors, le voir traîner sa misère, c'est bien? Non, je pense que c'est pas à moi de prendre la décision, mais personnellement, si le coureur souhaitait arrêter, je l'encouragerais.
Début de la montée finale pour Thomas de Gendt, le Belge de l'équipe Lotto-Soudal, dans sa roue Wilco Kelderman et Cyril Gauthier qui s'accroche en danseuse. Le lutin de l'équipe Europcar sera-t-il le sauveur de sa formation qui cherche toujours un repreneur? On est à 500 mètres de la ligne et les trois hommes de tête ont toujours 6 secondes d'avance. Derrière, ça rentre avec Thibaut Pinot qui a attaqué, me semble-t-il, incroyable. Le coureur de la FDJ. Non, c'est pas lui. C'est Arnaud Démare qui lance le sprint de loin. Derrière, c'est Greg Van Avermaet, le Belge de l'équipe BMC, pris en chasse par Sagan. Ça y est, les échappés sont repris. Le maillot vert de Peter Sagan qui déborde tout le monde. Est-ce qu'il va tenir? Sagan qui vient de se repositionner dans la route Greg Van Avermaet. Sagan en deuxième position, pris en chasse par Bakkeland. C'est Degenkolb. Greg Van Avermaet toujours en tête. Est-ce qu'il va laisser passer Peter Sagan? Victoire ici dans quelques instants à Rodez de Greg Van Avermaet, le Belge de la formation BMC.
C'est pas fait, c'est pas gagné
encore.
Il
y a match entre Van Avermaet et Sagan. Sagan qui tente de passer sur la droite de la route à l'arraché, la victoire de Greg Van Avermaet qui résiste à Peter Sagan. Quatrième, deuxième place pour le Slovaque qui va conforter son maillot vert. Mais il est maudit, Peter Sagan. Premier, Van Avermaet, le Belge de l'équipe BMC. Deuxième, Peter Sagan. Et troisième, John Degenkolb. Le mano à mano dans la montée finale de Rodez a été splendide. Un coup à toi, un coup à moi. Van Avermaet, Sagan. Finalement, victoire du coureur belge de l'équipe BMC. Quelle finale!
Quelle finale incroyable! On a bien cru, Cyril, que Peter Sagan allait réussir à passer devant Van Avermaet. Il était dans sa roue et puis il a craqué dans les derniers mètres.
On avait vraiment l'impression qu'il était sur un plateau. Il suffisait tout simplement qu'il lève un petit peu le cul de la selle et ça allait passer sur les 50 derniers mètres où ça redescendait. En fait, il était complètement sec, il était passé dans le rouge et il devait être à 15 de lactate. Hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et Van Avermaet, lui, il n'a pas craqué.
Il est parti de très loin et il s'impose donc d'un vélo devant Peter Sagan, quatrième, deuxième place. C'est le Poulidor de ce Tour de France 2015.
Oui, Sagan. Poulidor qui était jusqu'à aujourd'hui ou presque l'un des surnoms de Greg Van Avermaet aussi, qui collectionne les places de deux. Et bien cette fois, il a battu un autre maudit, Greg Van Avermaet, coureur belge de 30 ans. Spécialiste des classiques flandriennes ou même des classiques d'automne, il brille sur les routes d'octobre, vainqueur de Paris Tour en 2011.
Donc victoire de Greg Van Avermaet aujourd'hui, le Belge de la formation BMC qui s'est donc imposé devant Peter Sagan. On va rappeler quand même, Cyril, cette échappée de 190 km ou presque et qui s'achève à 500 mètres de l'arrivée. C'est terrible pour tous les coureurs qui en faisaient partie et notamment pour le français Cyril Gauthier de la formation Europcar. C'est tellement frustrant ça, mais ça arrive tellement souvent aussi. Hein.
Bah, c'est presque la règle. Hein. C'est assez rare que l'échappé ou que un des coureurs échappés arrive à l'emporter. On va reparler du problème des oreillettes, mais il est relativement important. C'est-à-dire qu'on est capable de dire à l'instant T aux coureurs qui chassent derrière les échappés à quelle vitesse, pratiquement à 0,100 km/h, à quelle vitesse ils doivent rouler pour aller chercher l'échappée le plus tard possible, car il faut aller la chercher le plus tard possible pour faire en sorte que vous n'avez pas des contres à 4 km ou à 5 km de l'arrivée. Donc vous réglez, vous avez les GPS, vous avez les oreillettes, et malheureusement pour les échappés, ça ne leur permet pas de bénéficier des efforts qu'ils ont fait pendant toute l'année. Puis le lendemain, ils vont avoir très mal aux jambes. Puis quelquefois, deux jours après, ils explosent.
Ouais. Thierry, je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà sur les routes du Tour, comme ça, d'être échappé pendant de nombreux kilomètres et de voir le peloton te rattraper, te reprendre, t'avaler, te digérer à quelques mètres de la ligne.
Oui, souvent, mais c'était pas à quelques mètres de la ligne, c'était dans l'Alpe d'Huez à Diborne, à Saint-Borne, deux fois en plus dans l'Alpe d'Huez. Je suis souvent, mais bon, l'Alpe d'Huez, tout le monde la voulait, et puis c'était très dur d'aller chercher une étape comme ça. Ouais. C'est déjà dur d'aller chercher une étape.
Ouais, mais évidemment, et l'étape reine est encore plus dure.
Voilà, c'est encore
parce
plus
que dur. L'Alpe d'Huez pour un coureur du Tour
bon,
de France, c'est,
quand on
c'est
lance,
un grand chef,
quand on se lance dans le boulot dès le départ, on sait à quoi on joue avec le peloton, c'est le peloton qui joue avec nous plutôt, et c'est un bras de fer. Bon, Cyril a dit, l'oreillette facilite la tâche du peloton. C'est vrai que il y a pas de temps mort entre l'indication du temps et l'information qui arrive au chasseur. Donc
En plus cette année, Thierry Lucho, Cyril, il y a le fait qu'il y ait très peu d'étapes pour les sprinteurs fait que tout le monde se bagarre parce que tout le monde a envie de décrocher ses bouquets.
C'est le cas. C'était l'occasion un petit peu aujourd'hui pour Sagan de même récupérer déjà des points sur Greipel, de conforter son maillot vert et puis de remporter cette étape parce que quand on se souvient il y a 2 ou 3 ans, il avait remporté une étape à peu près identique tout seul, il avait fait la différence et là. C'est vrai que cette année, il a un petit peu de mal, le père Sagan, à rééditer un petit peu les victoires du passé. Il échoue toujours de très peu, mais il échoue.
Oui, mais il y a des raisons pour cela.
Il a peut-être pas les équipiers aussi. Il lui manque peut-être un petit équipier.
Il a changé d'équipe. Avant, il avait une équipe totalement à sa disposition, mais tous les coureurs étaient à sa disposition. Aujourd'hui, Et tous les coureurs sont à la disposition de Contador, pas lui, il se débrouille tout seul. Sauf aujourd'hui sur le final, il a quelques coureurs qui sont venus rouler pour réduire un peu l'écart sur l'échappée. Mais après, dans le final, il est tout seul. C'est vrai depuis le départ.
Oui, mais Van Avermaet est tout seul aussi.
Oui,
il a un ou deux équipiers derrière.
Ouais, mais Cyril, une arrivée comme aujourd'hui, la limite,
t'as pas besoin d'équipier. Autant que dans un sprint.
Quand t'es placé dans un sprint comme celui d'aujourd'hui, dans une bosse quand même qui est relativement difficile, t'as pas besoin d'équipier. Mais à partir du moment où il est placé au pied, Cyril,
Van Avermaet était placé au pied.
Il avait plus d'équipier à ses côtés dans la bosse, Van Avermaet.
Ils sont plus que 7.
Oui.
Donc le reste de l'étape, il a que 3 gars pour travailler pour lui. Van Avermaet, ils sont complets.
Oui, mais
donc
bon.
tu laisses trois gras sur le deuxième.
Mais il avait bien aux deux équipiers en bas, Sagan, qui l'ont protégé jusqu'au pied de la bosse.
Il n'y a pas qu'au bas qu'il faut protéger. C'est à un moment, il y a du vent de côté. Il faut pas prendre un courant d'air.
Mais est-ce que tu as vu le boulot de ces équipiers? Moi, je les ai pas vus, mais on n'a pas pu.
Ils ont roulé devant, mais ils n'ont pas protégé.
Pas Van Avermaet, Sagan, il a pas pris de courant d'air, je pense. Il s'est placé. C'est un coureur quand même qui est fin tacticien et il va pas se mettre dans le vent avant l'arrivée, avant le pied de la dernière bosse.
Lucho, soyons logiques. Ce que Cyril dit, c'est la vérité. Dès qu'il a signé, j'ai dit c'est dommage pour lui parce que il va dans une équipe où il y a un grand leader et le grand leader c'est Contador et on va lui mettre un lanceur.
Il va peut-être changer d'équipe alors.
Il n'y a personne qui est capable de lui proposer le salaire qu'on lui propose chez Tinkoff aussi.
Il a choisi l'argent plutôt que la gagne. Voilà,
c'est sans doute Christophe a raison. Les mieux payés du peloton.
On va pas l'accuser d'avoir choisi l'argent.
Pas de l'autre. Oui, mais ça risque de moins gagner si ça gagne pas aussi, non ? Cyril, ça risque de moins gagner si ça gagne plus.
Non, c'est pas notre problème, c'est le chien.
Bon. Il a quand même
Tinkoff doit pas être très content ce soir encore.
Alors 4 places de deuxième sur ce tour et Cyril nous le disait tout à l'heure depuis le début de sa carrière c'est pas juste de cette année hein, ces deuxièmes places même s'il a remporté les étapes sur la route du tour.
Il a
15 deuxièmes places dans sa carrière.
Sur le Tour de France. Mais cette année déjà il y en a 14 sur l'ensemble de la saison.
C'est énorme. Hein,
donc
énorme.
C'est-à-dire qu'il y a un moment. Vous savez, vous faites 1x2, bon, faut t'as pas de chance. Vous faites 2x2, bon, vous êtes tombé sur quelqu'un de plus fort. 3 fois, d'accord, vous avez fait une faute. Mais quand vous arrivez à avoir fait 14 fois deuxième depuis le début de la saison, ça n'est plus quelque chose d'anormal. Il se passe quelque chose qui fait qu'il n'y est pas. Mmh. Et ça ne peut s'expliquer en grande partie que par la faiblesse ou le manque de métier de ses équipiers pour l'emmener. Aujourd'hui, je suis désolé, il fait les mêmes fautes que les autres jours. Il y a d'autres années où il aurait fait tilt. Là, c'est sur l'ensemble de l'étape, c'est sur l'ensemble du tour, c'est sur l'ensemble de la saison. Donc, c'est pas la faute des autres. Ça se situe bien au sein même de son équipe.
Ouais. Donc, problème pour Peter Sagan, qui n'arrive plus à gagner. Il va encore une petite chance d'ici la fin du tour.
Il reste les Champs-Élysées. Demain, c'est plié.
À Gap, peut-être.
Il y a Gap. Oui, mais attends, il faut passer
la dernière. Hein.
Oui.
Elle fait mal.
Michael est avec nous au 32-16. Il voulait intervenir sur le sujet Peter Sagan et non plus Sagan. Salut, Michael.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christophe. Bonsoir Thierry, Luc et Cyril.
Bonsoir.
Salut.
C'est la faute à pas de chance. Hein. J'étais à Rodez, j'étais à l'arrivée aujourd'hui. Il est encore tombé sur plus fort que lui. Quoi, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question.
Mais ça peut pas être la faute à pas de chance quand ça fait 14 fois que tu fais deuxième depuis le début de saison.
C'est incroyable. Et pourtant, son équipe a bien travaillé pendant toute la journée. C'est la première fois que je vois la Tinkoff rouler pour lui comme ça. J'ai cru que ça allait être entièrement dévoué à Sagan, à Contador, et que Sagan allait se débrouiller tout seul, mais pas du tout. Ils ont roulé, pourtant pour lui, mais rien à faire. Hein.
Les automatismes ne sont pas bons.
L'année dernière, ce que je trouve quand même bizarre, c'est que l'année dernière, il était quand même chez Cannondale, dans une équipe entièrement dévouée à sa cause, et il a pas gagné non plus.
Et là, c'est exact. Il y a deux ans, il n'en avait gagné qu'une.
Ouais. Il est peut-être un peu moins fort.
Il est peut-être un peu moins fort, mais par contre, pour le classement du maillot vert, Michael, tu le vois ramener quatrième maillot à Paris?
De toute façon, pour les sprinteurs, il n'y a plus beaucoup d'occasions. Il reste Valence et les Champs-Élysées. Alors, de toute façon, c'est clair, hein. Il n'y a plus grand-chose, hein. Il suffit qu'il attrape une échappée, je pense, dans les Alpes. C'est peut-être la stratégie pour lui, pour le maillot vert. Et il bat Greppel, et puis c'est fini, hein.
Ah oui, mais dans les Alpes, il y a la Toussuire, il y a Pralou, il y a l'Alpe d'Huez. C'est pas gagné, là. Hein.
D'aller prendre des points, non, c'est pas gagné d'aller prendre des points.
Non, mais ça va jouer sur les sprints intermédiaires.
La bagarre est belle entre Greipel et Sagan, hein, sur les sprints intermédiaires.
Alors, si je résume ce Tour de France, le plus fort, c'est Chris Froome. L'éternel second, c'est Peter Sagan. Et ceux qui se font toujours avoir, ce sont les Français. Oui, en gros, c'est ça. On va s'intéresser au malheur des Bleus dans un instant.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
C'est l'Intégral Tour jusqu'à 21h. Avant les Alpes, une petite révision de la deuxième semaine de course s'imposait. Samedi 18 juillet, entre Rodez et Mende, on a bien cru qu'un Français allait s'imposer. Thibaut Pinot et Romain Bardet échappés, mais rattrapés, comme des Bleus. Est-ce qu'ils se sont marchés dessus? La Dream Team RMC Sport pourrait en parler pendant des heures.
Fred, nous sommes au pied de l'ascension.
Oui, et ça va peut-être barder dans cette côte de la Croix-Neuve avec une arrivée de cette 14e étape, 1,5 km après le sommet de ce, on va dire, mur de 8 puissance 2, parce que c'est long, mais c'est tout aussi raide par endroit, ou presque, en tout cas après 175 km de course, forcément que cela va faire des différences.
Et attaque de Bardet.
Exactement, Romain Bardet qui, au pied de cette côte de la Croix-Neuve, est le premier à mettre une accélération. Il revient sur Christian Koren, le Slovène, et ne va pas tarder à revenir sur Michel Golas. Romain Bardet, sixième du dernier Tour de France, vainqueur de l'étape de Pralou sur le récent Critérium du Dauphiné, est en train de prendre une cinquantaine de mètres d'avance.
Thibaut Pinot n'y est pas, il a trop travaillé avec son coéquipier Jérémy Roy. Il est en serre-file à l'arrière de ce groupe d'échappés. Il va avoir du mal, Cyril, Thibaut Pinot à revenir, alors que Romain Bardet est rejoint, me semble-t-il, par l'arrière. Hein.
Par Pantano.
Pantano, le Colombien de l'équipe suisse Yam Cycling. Simon Yates est également très bien. Rigoberto Urán en quatrième position. Romain Bardet se débarrasse de son dernier bidon à 3,5 km de la ligne. On est dans les pourcentages les plus sévères, à près de 15%. Bardet avec dans sa roue Pantano, Simon Yates, Rigoberto Urán et son équipier Jan Bakelands en sixième position. Les battus du jour s'appellent Thibaut Pinot, Peter Sagan, Van Avermaet, Steve Cummings. Tout cela sont décrochés au même titre que Cyril Gauthier, que Bob Jungels. Voilà le forcing de Romain Bardet a fait des dégâts.
Oui,
il a peut-être attaqué un petit peu trop tôt à mon goût, Romain Bardet. Il aurait dû attendre un petit peu, mais il y a encore beaucoup plus de pourcentage dans les prochaines centaines de mètres, et je pense qu'il a attaqué un petit peu.
Thibaut Pinot est en train de revenir au train maintenant avec Cyril Gauthier dans son sillage.
Voilà, les deux Français, Thibaut Pinot qui a été en difficulté au tout début lors de l'attaque de Romain Bardet, qui revient au courage.
Et attaque de Cyril Gauthier.
Cyril Gauthier qui fait un semblant d'attaque, messieurs. Ouais. Romain Bardet le contre à l'instant. Il garde la première position, mais cette fois, il passe avec un gros développement et il tente de faire la différence sur Simon Yates, le jeune coureur britannique de l'équipe Orica Greenwich.
Qui semble facile.
Romain Bardet qui attaque une nouvelle fois, qui tente une troisième attaque. Va-t-il y avoir une victoire d'étape française? Georges Quirino sur la moto.
À moins de 3 km du sommet, oui, Romain Bardet désormais seul en tête. On voit derrière lui Simon Yates qui tente d'assurer la poursuite. Thibaut Pinot également, mais le coureur de l'équipage de Zara Mondial a pris quelques mètres, Christophe, sur ses poursuivants.
Il se passe des choses également dans le groupe maillot jaune avec une attaque de Nairo Quintana qui est prise en charge par Nibali. Chris Froome ne réagit pas pour l'instant. On est loin derrière, évidemment, à plus de 4 minutes, mais il se passe des choses à tous les niveaux de la course aujourd'hui.
Deux courses dans la course. Bardet seul devant la conquête de l'étape. Quintana qui accélère et qui a dans sa roue Vincenzo Nibali. Alejandro Valverde essaye d'accompagner ces deux-là. Nibali relaye Quintana. Christopher Froome laisse pour l'instant pisser, alors que Contador reste dans la roue de Christopher Froome. Froome qui ne s'affole pas, qui laisse partir Quintana et Nibali, parce que Quintana est à plus de 3 minutes au général. Froome qui n'a pas l'air d'être en grosse défaillance.
Ouais. Donc ça, c'est à l'échelon arrière dans le groupe maillot jaune. Car devant, eh bien, nous avons toujours un Français en tête, Romain Bardet, qui va remporter cette étape dans quelques instants, Fred.
Oui, à 150 mètres du sommet de la côte de la Croix-Nap, Romain Bardet qui n'a plus qu'un adversaire, et cet adversaire, c'est Thibaut Pinot. On a les deux grands espoirs du cyclisme français qui vont se jouer la victoire d'étape.
Passage
au sommet pour Romain Bardet qui va basculer vers l'aérodrome, arrivé à 2 km pour Romain Bardet qui se retourne et qui voit Thibaut Pinot revenir 50 mètres d'avance seulement pour Romain Bardet sur Thibaut Pinot.
Les deux rivaux français qui vont se livrer à mano fantastique dans les deux derniers kilomètres de cette étape. Les deux Français qui sont devant, ils sont rejoints à l'instant même par un troisième.
Steve Cummings, coureur britannique de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka, vient de se joindre à Pinot et Bardet.
Deux Français vont-ils se faire avoir par un Sud-Africain, un Britannique, de la formation sud-africaine MTN Kubeka. Nous sommes dans les derniers hectomètres à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Fred.
On est dans la dernière ligne droite maintenant, 500 mètres de l'arrivée. Steve Cummings qui a pris deux vélos d'avance sur Pinot et Bardet. Il est en train de partir vers la victoire. Romain Bardet qui déboîte Thibaut Pinot pour la deuxième place, mais Cummings fait de la résistance. Il a toujours 5 mètres d'avance sur Romain Bardet. Romain Bardet à l'arrache et qui ne reviendra pas. Il s'assoit. Thibaut Pinot relance en danseuse pour aller venir mourir au pédalier, mais beaucoup plus loin même, Cummings. Victoire du Britannique Steve Cummings devant Thibaut Pinot et Romain Bardet. On ne s'est pas assez entendu au sommet de la côte de la Croix-Neuve, eux qui étaient intrinsèquement bien meilleurs grimpeurs que Steve Cummings. Cummings qui n'est pas le premier venu tout de même et qui vient remporter sa première étape. Lui, le Britannique de la formation MTN Kubeka.
Il me semblait qu'au pied, je vous avais dit qu'il fallait se méfier de Cummings.
Premier tour de France pour l'équipe sud-africaine MTN Kubeka. Première victoire. L'étape pour Cummings devant Pinot et Bardet. Et derrière, parmi les favoris, Contador qui décroche alors que Christopher Froome est rentré sur Nairo Quintana. Ils sont tous les deux ensemble avec Valverde. Alors que Quintana est toujours en danseuse avec Christopher Froome dans sa roue. Il en remet une petite à la façon d'un grimpeur colombien qu'il est. Il devance maintenant Christopher Froome de 5-10 mètres. Jolie accélération alors qu'on en termine dans cette montée de la Croix-Neuve.
Voilà, ils n'ont pas fait une grosse différence sur Alberto Contador qui se trouve en compagnie de Valverde à une trentaine de mètres derrière le duo du maillot blanc et du maillot jaune.
Non, pas de grosse différence. Il n'y aura pas de gros écart ici sur l'aérodrome de Mende. Les deux Espagnols, Contador et Valverde, sont à la poursuite du duo Quintana-Froome. On a les deux meilleurs coureurs du Tour de France. La Quintana, maillot blanc de meilleur jeune, et Contador, maillot jaune impérial sur les hauteurs de la côte de la Croix-Neuve.
Les deux Français se sont un petit peu trop observés, qui marchaient dessus, comme on dit, dans le trou dans la montée de la Croix-Neuve, et qui ont été surpris de voir arriver dans leur ombre un certain Cummings qui est arrivé, qui leur est passé devant, qui les a lâchés avec deux trois virages. Non, Cyril, non.
Non, mais tu peux pas être surpris de voir quelqu'un revenir quand tu arrêtes de rouler.
Il attendait en plus.
Bah, t'es capable de te retourner et puis de voir ce qui se passe derrière quand même.
Alors, donc, notre ami Thibaut Pinot qui dit que Mings a giclé de derrière. Il a pris les cours plus vite que nous, il est arrivé lancé, donc il nous a eu. Il a bien joué. Il a été plus fort et plus malin que nous. Je ne savais pas qu'il était derrière moi. Avec le bruit, je n'entendais rien. Je l'ai vu débouler aux 500 mètres. Je n'avais même pas remarqué qu'il était dans l'échappée. Moi, le dernier que j'ai vu, c'est Uran. Je pensais vraiment que c'était lui derrière moi. Avec Romain, on s'est sans doute trop regardé, oui. Il aurait fallu s'entendre tout de suite. Romain, au début, n'a pas voulu passer, mais bon, c'était tactique de sa part. C'est normal, nous sommes deux compétiteurs, nous voulions tous les deux gagner. C'était une victoire sur le tour qui était en jeu. Résultat, on fait 2-3. Voilà la déclaration qui tombe.
Non, mais attends, il dit tout à la fin. Tout ce qu'il dit au départ n'a pas de sens. Je suis désolé, on va dire que je fais des polémiques. Attends, t'es échappé, t'arrives à deux, tu regardes quand même ce qui se passe derrière, et puis tu fais. Attends, les deux coureurs doivent se mettre d'accord et assurer. Si vous voulez gagner, il faut d'abord arriver en position de gagner aux 200 mètres. Et là, ils devaient rouler tous les deux. Derrière, tu sais très bien que si tu commences à te regarder derrière, attends, ils vont mettre la poignée au fond. Bon, et tu peux pas dire que d'un seul coup t'es surpris à 500 mètres de voir quelqu'un arriver de l'arrière si tu roules pas devant, c'est logique, c'est normal. C'est les fautes que font les cadets. Je suis désolé de le dire, et je vais peut-être encore m'en prendre plein la tronche.
Tous les jours t'en
remets
une.
Non mais je suis désolé. T'as deux coureurs français qui se retrouvent à 1,5 km de l'arrivée ensemble, qui s'en regardent.
Et qui
ne joue pas le jeu de dire attends, ok, il y en a un qui va gagner sur les deux, mais déjà assurons.
Ouais. Assurons. Allons au sprint et disputons.
Si tu veux faire du surplace avant le dernier virage, tu regardes une nouvelle fois. Faut toujours se regarder quand on est devant. Et puis tu regardes derrière et puis t'es débattant. Si ça vient pas, après tu peux le faire au chat et à la souris. Tu peux jouer au poker, mais pas à deux bornes de l'arrivée. Attends, Cumming, il a quand même gagné le Tour Med. Attends, il a un palmarès.
Oui, bien sûr.
Un gros rouleur. Donc ouais, il est lancé comme il était.
Alors Thierry, ils ont roulé comme des cadets aujourd'hui, Romain et Thibaut.
Oui, mais c'est facile à dire là maintenant. Mais c'est vrai qu'ils pensaient avoir fait le plus dur dans la bosse, et puis ils se sont marqués mutuellement. Et il le dit, hein, ils avaient envie de gagner tous les deux. Il fallait pas faire le faux pas. Ils l'ont fait tous les deux en plus. Et c'est le troisième larron qui est lancé de l'arrière, vient les coiffer. Et puis après.
Thierry, est-ce que tu te rappelles ce que disait Cyril Gauthier hier après l'arrivée? Seule la première place compte.
Oui, mais c'est peut-être.
Ah, mais là, ils sont très déçus. Ils sont évidemment très déçus.
Ils sont très déçus. Ils sont très déçus. Ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes.
C'est peut-être aussi pour ça. Il n'y avait que la première place. Ils arrivent à deux. Et ils ont joué, peut-être comme au.
Ah oui, mais pour gagner, il faut déjà se mettre en position de gagner.
Oui, d'accord. Non,
mais quand on dit, j'ai pas entendu ce qui arrivait derrière. De toute façon, ils savaient très bien que les écarts entre les deux et ceux derrière c'était très faible. Donc, ils s'attendaient bien à un moment donné, à force de se regarder et puis de jouer au chat et à la souris, que ça allait tellement rentré de derrière. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Cumming.
Lucho, de tout temps, évidemment, il y a eu des rivalités entre les coureurs français. En l'occurrence, ce sont quand même les deux rivaux désignés depuis des années. Ça fait des années qu'ils sont rivaux sur les courses de jeunes et aujourd'hui chez les professionnels. Tous les opposent ou presque, même si Romain Bardet dit qu'ils sont amis avec Thibaut Pinot, mais il y a quand même une espèce de suprématie qui est en jeu, Lucho, là, entre les deux.
Les amis, ça n'existe pas en compétition. Quand tu es sur le vélo, que tu es là pour la gagne, il y a pas d'amitié. L'amitié, tu l'oublies. Tu vis et tu cours et tu t'entraînes pour la gagne. Après, qu'il y ait une certaine amitié dans la vie de tous les jours, je suis d'accord, mais pour la gagne, et quand il s'agit d'une compétition, c'est chacun pour soi. Tu oublies les amis. C'est fini, ça. Tu cours sur un maillot pour un sponsor, tu cours pour une équipe, Bardet court pour une autre équipe, Thibaut, c'est pareil. Donc, l'amitié, ça n'existe pas dans ce genre de...
Non, mais attends, je vais plus loin que ça. C'est que quand vous vous trouvez en position de gagner entre coureurs de la même équipe et une course importante, même là, ça disparaît.
Mais est-ce que finalement, Thibaut Pinot et Romain Bardet, Thibaut Pinot, il préfère que ce soit Cummings qui gagne ou Bardet?
Non, il savait pas qui était derrière. Il pensait que c'était Uran, il le dit. Donc c'est Uran, à la limite, c'est pas comme ça qu'il faut voir la course. On est devant, on assure. Attends, la première chose, c'est d'abord d'assurer qu'on arrive tous les deux si on veut gagner. S'il y a un troisième qui vient, attends, Bardet, il avance comme un fer à repasser. Thibaut Pinot, un tout petit peu mieux, c'est un fer à repasser, on va dire.
Pas dans la montée quand même. Tu parles pas de la montée là.
Arriver au sprint. On a deux coureurs qui ne sont pas des sprinters. Logiquement, je pense que
Thibaut va plus vite que, oui, que Romain. Romain. Bon, mais attends, si t'as un, attends, même Cummings, s'il arrive et qu'il se relève, parce que lui, il est passé à côté, il ne s'est même pas posé de question. S'il arrive et qu'il se met dans la route, de toute façon, il a gagné. Mais il a même pas besoin d'attendre, il est arrivé, il a pris le virage, pof, il avait 15 mètres d'avance, l'affaire était classée. Bon. Mais quand tu sais que tu vas pas vite, et que les deux, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, bien que je pense que Thibaut va plus vite que l'autre, mais après, tu fais une faute, tu la fais pas dans le sprint, mais tu laisses pas rentrer quelqu'un quand t'es pas un sprinter.
Ouais, mais Cyril. C'est pour ça que Bardet a joué fin, il savait qu'il avait perdu au sprint, donc il a fait le gars qui voulait pas participer, il est resté dans la roue. Et c'est ce qui les a enterrés d'ailleurs. Parce que ben le temps de se regarder un petit moment, l'autre était pas loin et flop, il revient sur eux.
Il a aimé un coup d'11-dents en haut.
Ben,
il
oui.
peut dire il arrive à 75
à l'heure. Comme il était, c'est clair.
En plus, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au moment où juste il y avait les courbes. Et en plus, au bon moment où Thibaut était devant, où il vire plus mal que Bardet. Donc ça arrangeait bien Cummings.
Ouais. On va écouter, je suis pas sûr que Cummings ait posé la question comme ça. Mais bon.
Oui, mais enfin, bon, regarde, il est passé.
On va écouter, ouais. Alors, je vous ai donné la réaction de Thibaut Pinot. On va écouter celle de Romain Bardet. C'était tout à l'heure, derrière les lignes d'arrivée, au micro de Pierre-Yves Leroux. Romain Bardet, troisième de l'étape.
Ah, moi, je savais qu'il fallait que je monte par à coup comme je l'ai fait pour décrocher mes adversaires. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué dès le pied. Et bon, je l'ai payé un petit peu sur le haut. Là. Je la connaissais pas, la montée était un petit peu longue. Voilà, je marquais exclusivement Thibaut. Ça en faire mon affaire au sprint. Donc voilà, c'est dommage parce que Thibaut, on est amis, on se fait avoir. On a tous les deux raté notre tour pour l'instant et voilà, ça aurait été bien que l'un de nous deux puisse gagner. Donc c'est extrêmement décevant. Ça, je fais 6e du tour l'an dernier. J'essaie de faire mieux, voilà, maintenant que c'est raté. J'aimerais vraiment essayer de remporter une étape, c'est très difficile et voilà, je laisse encore passer une occasion aujourd'hui.
Voilà la déception
ouais,
de
mais les discours
de
à la gentleman c'est parce que c'est des discours à la gentleman, on est amis tous les deux machin truc non
une arrivée
non.
C'est pas face de
non
bouc,
Romain
hein.
Romain
tu disais ça toi aussi, tu disais ça, toi aussi quand tu parlais de Richard Virenque
non, on s'appréciait pas plus que ça, mais comme je dirais à l'époque Anctil ou tu vois Poulidor, ils s'appréciaient pas plus que ça, ils sont devenus très amis après.
Non, ils se respectaient
voilà. Bon, après aujourd'hui, là, on parle de Thibaut et on parle de Romain. L'amitié ne doit pas exister et les discours, discours à la gentleman, ça n'existe pas. Ça après une arrivée, quoi. Il faut,
non,
faut être plus concis que ça.
Fait,
il faut, voilà, je veux dire, il y avait une colère certainement de l'un et de l'autre, mais ils n'ont pas voulu déclarer leur colère officiellement au micro. Ça, j'en suis certain.
Et Romain, il l'a joué comme il faut. Et je te dis, il s'est mis dans la roue. Il voulait pas.
Des fois, parfois, les amitiés.
Malheureusement, ils ont payé l'addition tous les deux. Ben, qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais.
Et Florent est avec. S'il participe et qu'il se fait battre par Pinot, ben il prend la même chose dans la gueule. Alors, là, on va lui reprocher d'avoir roulé avec un mec qui va plus vite que lui et que c'est n'importe quoi. Et c'est ça le malheur.
Tout le monde est déçu. Tout le monde n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Hein.
Même nous, quand on réagit de la façon dont on réagit, parce que on aime le Tour de France et puis on aime les Français et on aimerait bien voir des Français gagner. L'an dernier, on a fait un tour absolument extraordinaire. Alors, d'accord, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont permis de le faire, mais on espérait si. Enfin, on n'espérait pas aussi bien que l'an dernier, mais on espérait voir les héros de l'an dernier avoir un comportement. Bon, alors, je ne fais pas le procès des coureurs en fonction des différents problèmes qui se sont posés depuis le départ du Tour. C'est pas ça le souci. Mais le jour, nom d'un chien, où ils arrivent pour la gagne, qu'ils arrêtent de se marcher dessus, alors, quoi.
Cyril,
ça va pas se répéter
question,
tout le
je
temps.
Je te pose une question, Cyril. Si jamais Bardet avait roulé avec Pinot. Et il se fait avoir au sprint parce que, on le sait, bon, Pinot va
c'est
un
la
peu
règle
plus
du
vite.
Jeu.
Va un peu plus vite. Qu'est-ce que tu aurais dit?
C'est la règle
non,
du jeu.
Non, mais t'es directeur sportif de Bardet, tu
non,
dis quoi?
Non,
putain,
ah,
mais
non,
qu'est-ce
non.
que t'as fait? Qu'est-ce que t'as roulé avec
non,
lui?
Non. D'abord, pour gagner, il fallait qu'ils arrivent, pour que l'un ou l'autre gagne, il fallait qu'ils arrivent tous les deux. Si
ouais.
je suis directeur sportif.
C'est au sommet, oui. Tous les deux au sommet, malheureusement.
Mais après, t'assures. T'assures, tu regardes derrière et t'assures. Je veux dire, tu mets un Vauclair là, à la place de l'un des deux. Cumming, il revient pas, hein.
Eh ben oui, ben ils se sont trompés et ils sont passés à côté d'une belle victoire parce que là, évidemment, à Mende, c'est une victoire d'étape très prestigieuse que nos deux Français ont ratée. Il y aura peut-être d'autres occasions, mais elles sont pas nombreuses.
Pour l'instant, on en a qu'une. Hein.
Ouais, une victoire d'étape.
Et les Français qui arrivent pour la gagne.
Les Français qui passent bien à côté de leur Tour de France.
Décidément, c'est pas le tour des Français. Contrairement à l'an dernier, ça peut pas rigoler tous les ans non plus. Là, c'est plutôt le tour des Anglais. D'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. On va voir ça jusqu'à 18h sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.